Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 8h19 et le grand entretien aujourd'hui, c'est avec Estelle Brachlianoff. Bonjour, vous êtes la directrice générale de Veolia. On ne sait pas s'il y a une croissance verte. En tout cas, pour Veolia, la transition écologique, c'est un business qui fonctionne. Jeudi dernier, vous avez publié vos résultats. Bénéfice net en hausse de 31%, chiffre d'affaires à 45 milliards d'euros, en croissance organique de 9%. Ça fait 2 ans que vous dirigez l'entreprise. Vous avez annoncé un plan stratégique sur vos 3 métiers, eau, déchets et énergie. J'aimerais bien qu'on commence avec l'énergie, parce que c'est pas le business qu'on connaît le mieux chez vous. Et pourtant, aujourd'hui, c'est 30% quasiment de votre activité. Qu'est-ce que vous dites ? Veolia, dans 4 ans, c'est un groupe d'énergie ?
Alors, avant de répondre à votre question, vous avez raison, des résultats très très bons sur l'année 2023, mais c'est pas tout à fait par hasard. C'est parce que la demande de nos services n'a jamais été aussi forte. Parce que Veolia, c'est quoi ? C'est d'aider nos clients, les villes et les industries, à se décarboner, à dépolluer, à préserver la ressource en eau. Et vous imaginez bien que ce type de solutions, qui sont abordables, qui sont réplicables, on en a de plus en plus besoin. Et donc, mon plan stratégique, c'est d'ailleurs un choc de solutions, finalement, pour, on l'a appelé Green Up, pour arriver à déployer ça partout dans le monde, dans les 44 pays de présence. Pour répondre à votre question sur l'énergie, c'est déjà 12 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est à peu près un quart de Veolia, qui fait aussi évidemment de l'eau, où on est leader mondial, et du déchet, notamment du déchet dangereux. Ça va croissant, donc ça ne sera pas à la fin un groupe d'énergie, ce sera sans doute un groupe plus équilibré au sens un tiers, un tiers, un tiers, mettons entre nos 3 grandes activités. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui sont au croisement de nos activités chez Veolia. Je vous donne un exemple. On fabrique de l'énergie chez Veolia au sens local. On ne va pas se mettre à faire des éoliennes en mer ou des projets nationaux. C'est à l'échelle d'une ville. Typiquement, on va chercher de l'énergie là où c'est inexploité, à partir des déchets par cyclables, à partir des eaux usées, à partir de l'énergie qui est gaspillée par des industriels ou dans des réseaux.
Par exemple, quand vous remettez le GNL sous un état gazeux, en fait, on n'utilise pas l'énergie qui est dégagée à ce moment-là.
Alors, c'est un très bon exemple. On a une première mondiale à Barcelone, sur le port de Barcelone, où en effet, il y a un terminal gazier sur le port de Barcelone pour transformer le gaz liquéfié dans le bateau en du gaz sous forme gazeuse qui va ensuite être utilisé. On refroidit la mer. On utilise l'eau de mer. Quand je dis on, c'est en l'occurrence le terminal gazier. Il refroidit l'eau de mer. Ce froid, il est inutilisé. Eh bien, on l'a récupéré pour l'utiliser pour ce qui est un peu l'équivalent du mine de Rungis, si vous voulez, mais à Barcelone, donc un grand marché d'intérêt pour pas seulement climatiser le marché, mais aussi les congélateurs du marché et donc le froid dont il y a besoin. Donc en gros, là, c'est un froid qui était inutilisé qu'on a récupéré pour un industriel.
Quand vous dites, effectivement, c'est intéressant que finalement vous allez déployer des solutions sur les trois métiers au niveau local, ça veut dire que vous serez jamais, par exemple, un Engie en matière énergétique ?
Non, vraiment, notre métier, c'est l'énergie locale et l'énergie décarbonante, c'est-à-dire où la trajectoire carbone se réduit. C'est d'ailleurs un de nos objectifs dans le plan Green Up. C'est pas de faire du vert, c'est de verdir, si vous voulez, et d'avoir à chaque fois une empreinte CO2, une empreinte eau qui se réduit grâce à nos services. Ce réservoir de solutions dont je parlais sur l'énergie, si on reprend les exemples que vous avez cités, il est assez gigantesque. À l'échelle européenne, cette énergie locale de chez nous, j'ai envie de dire, qui est sous nos pieds et qui est très largement inexploitée, c'est 400 gigawatts. Alors 400 gigawatts, ça peut vous paraître un peu abstrait, c'est 400 tranches nucléaires déjà, uniquement à l'échelle européenne, où c'est 30% des carburants fossiles qu'on importe d'Europe. Donc on pourrait en importer 30% de moins en allant chercher de l'énergie qu'on a chez nous, dans nos territoires.
Votre plan stratégique, c'est 4 milliards d'euros d'investissement. Là, ça sera pareil, un tiers, un tiers, un tiers, ou c'est spécifiquement justement sur les questions énergétiques ?
Alors, notre plan stratégique, on fait des choix et on met les moyens là où on pense que ça va avoir le plus d'impact. Le plus d'impact pour réduire l'empreinte eau, pour réduire l'empreinte carbone ou pour réduire les polluants. Donc, sur les 4 milliards d'investissement de croissance du prochain plan, ce qui est un montant très important, doublé par rapport au dernier plan stratégique, donc on a vraiment une accélération de, de l'histoire. Sur ces 4 milliards, la moitié va être consacrée à des boosters de croissance qu'on a identifiés. Et ces boosters de croissance, c'est l'énergie locale qu'on vient de citer. C'est aussi le traitement des déchets dangereux, donc les polluants qui permettent de préserver la santé humaine et les écosystèmes. Et c'est également les technologies d'eau, dont on voit après les deux étés qu'on vient de passer qu'elles sont absolument indispensables pour tous nos clients.
En termes de mix client, justement, vous parliez des collectivités locales et des entreprises. Est-ce que ça va changer, ça? Est-ce que vous avez plutôt envie de développer la clientèle d'entreprise par rapport à la clientèle des villes et des agglomérations?
Alors aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié.
Ouais, hein,
on travaille à moitié pour des... la moitié de nos clients sont des villes et l'autre moitié sont des grands industriels ou des grands gelants de la grande distribution, par exemple. Ou des hôpitaux, des centres commerciaux. C'est un très bon équilibre, d'accord. Mais j'ai envie de dire, tout le monde a besoin de nos services. Hein. Quand je vous disais énergie locale, se passer de l'import de carburants fossiles pour aller chercher la source d'énergie locale, les villes en ont besoin, les industriels aussi. Ça les rend moins dépendants d'une supply chain à l'autre bout de la planète. Quand je parlais de technologie d'eau, 20% de l'eau dans le monde, elle est utilisée par les industriels. Donc on a énormément de demandes de partout, et j'allais dire dans tous les pays également. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment une demande qui va croissant. Et on est vraiment passé d'un marché de l'offre un marché de la demande.
Vous avez toujours dit, notamment sur les questions de l'eau, on pourrait faire plus, mais en fait, il y a des problèmes de réglementation, il y a des collectivités locales qui ne passent pas encore commande. Est-ce que ça évolue? On attend beaucoup de choses d'un plan simplification. Est-ce que ça avance?
Alors, ça avance, mais ça pourrait encore aller plus vite. Vous avez raison, moi j'ai envie de parler d'un réservoir de solutions. Le réservoir de l'énergie locale, 400 gigawatts à l'échelle européenne. Il y a un réservoir équivalent sur l'eau, de l'eau qu'on gâche et qu'on pourrait éviter de gâcher, de l'eau qu'on pourrait recycler, à l'échelle mondiale de 50 milliards de mètres cubes. 50 milliards de mètres cubes, c'est la consommation de l'ensemble de la population européenne. Ne serait-ce qu'en évitant le gâchis, les fuites,
juste en efficacité.
En recyclant de l'eau, c'est un réservoir de solutions et on peut aller plus vite. Et pour aller plus vite, il faut effectivement, pour moi, un choc de solutions. Les populations partout dans le monde, elles ont pris conscience de la problématique, les industriels aussi. Maintenant, on doit passer non pas seulement au constat, mais à l'action, et à l'action avec du rythme le plus vite possible. Et c'est vraiment ça le plan Green Up, c'est le déploiement de solutions partout dans le monde pour avoir plus d'impact.
Mais justement, Estelle Brachlianov, je vais vous challenger comme analyste financier, est-ce que vous allez assez vite vous-même? Parce que vous donnez les chiffres, là, quand on voit le potentiel de croissance, vous évaluez à 2500 milliards d'euros le marché de la transition écologique. Or, vous n'investissez que 4 milliards et vous n'avez un chiffre d'affaires que de 45 milliards. Il y a beaucoup de... Vous ne pourriez pas aller plus vite encore?
Alors, vous avez raison que Veolia, pour avoir un chiffre d'affaires beaucoup plus important, la demande de nos services, elle est très élevée. Sur les investissements que l'on met, 4 milliards, c'est déjà deux fois plus que dans le dernier plan. Donc, il y a une accélération importante. Mais n'oubliez pas que 1 euro dépensé par Veolia, c'est un projet de 3 ou 4 euros équivalent, parce qu'on a énormément de cofinanceurs et des gens qui veulent nous apporter des moyens financiers pour des projets qui sont des très beaux projets. Donc on a un effet de levier sur les investissements Veolia qui est très important.
Vous ne vous sentez pas frustré parfois de dire j'aimerais bien aller plus vite, mais j'ai pas les capitaux pour, j'ai pas les investisseurs, j'ai pas les banques?
Alors, ce qui permettrait d'aller plus vite, c'est pas nécessairement plus d'argent, parce que comme je viens de le dire, l'argent on le trouve. C'est plutôt ce que vous avez indiqué préalablement, c'est du rythme dans les autorisations. Aujourd'hui, il faut 4 ans pour mettre des panneaux photovoltaïques sur une décharge fermée en France.
Ah oui.
Nous avons annoncé que nous le faisions il y a 3 semaines. En France, on va mettre 300 mégawatts sur des décharges fermées, mais on l'a décidé, on l'a lancé. Ça veut dire que le premier électron, il sera disponible pour le réseau électrique dans 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup trop long. On devrait pouvoir faire 6 mois, 1 an, si on avait une mobilisation générale. Donc, pour répondre à votre question tout à l'heure, oui, prenons conscience de ce réservoir de solutions et accélérons.
Sur la question du marché de l'eau, faut qu'on dise un petit mot du dossier du CEDIF. C'est le syndicat des eaux d'Île-de-France, un contrat sur 12 ans qui a 4,5 milliards d'euros. Fin janvier, le rapporteur public du Conseil d'État a validé la victoire de Veolia sur ce contrat. L'appel d'offres avait été suspendu puis relancé à cause d'un bug informatique. Je vais pas vous demander de commenter le dossier lui-même, mais juste sur le marché de l'eau, parce que ça met tout un soupçon sur la manière dont fonctionne le marché en lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, il fonctionne comme n'importe quel autre marché, en toute transparence?
Et ça a d'ailleurs été confirmé par les décisions que vous venez de rappeler en justice. Oui, il y a une vraie concurrence sur le marché de l'eau et Veolia est leader mondial. Et notre métier, c'est de continuer à démontrer de l'excellence opérationnelle et de l'innovation sur ce métier historique du groupe. L'offre du CEDIF que vous avez citée, c'est finalement une espèce d'offre qui rassemble ce que l'on peut imaginer d'être le service d'eau du futur. J'aurai l'occasion de le présenter très certainement un peu plus tard, mais il y a 10 premières mondiales, par exemple, dans ce contrat. Donc il y a encore de beaux jours dans ce métier que je qualifierais de traditionnel du groupe. Et on a également vu pendant le Covid que ces services essentiels à la population, ils étaient essentiel et résilient et clé pour absolument tout le monde.
Encore un mot, c'est le Super Tuesday aux États-Unis et vous réalisez 5 milliards d'euros de revenus là-bas. Est-ce que vous êtes inquiète sur l'issue de l'élection américaine? Est-ce que par exemple une victoire de Trump qui a l'air de s'affranchir un peu des objectifs de décarbonation vous inquiète?
Alors, vous avez raison, on fait 5 milliards aux États-Unis. Au global, Veolia est très international, puisqu'on fait 40% en dehors d'Europe et 80% de notre chiffre d'affaires en dehors de France, pour vous donner une idée. Donc, 5 milliards de dollars aux États-Unis. Et on s'internationalise de plus en plus. Non pas en réduisant ce que l'on fait en France, mais en croissant plus vite, notamment en dehors d'Europe. Dont les États-Unis. Alors, aujourd'hui, qui que ce soit qui gagnera les primaires et la présidentielle au mois de novembre, la demande de nos services ne va pas s'éteindre et donc il y a un grand avenir pour nos services aux États-Unis. Et pourquoi ça ? Parce que c'est porté par plusieurs choses. La première, c'est la demande des populations. Quand on parle de rénover les infrastructures d'eau et de traiter des enjeux de santé, vous imaginez bien que ce soit Biden ou Trump qui soit élu au mois de novembre, c'est un sujet qui est essentiel pour les Américains. Et c'est ce que l'on fait. Traiter des nouveaux polluants dans l'eau, par exemple. Deuxième chose que l'on fait, c'est le déchet dangereux, où on est numéro 3 du déchet dangereux aux États-Unis. Pareil, l'activité de déchet dangereux, elle est assise sur l'industrie, et notamment, on a une réindustrialisation, ce qu'on appelle un reshoring en anglais, aux États-Unis, dans la microélectronique, dans la pharmacie.
Oui, il y a beaucoup de besoins.
Et à chaque fois, ils ont besoin d'eau, ils ont ultra pure. C'est quelque chose sur lequel on est très bon. Et ils ont besoin de traitement de déchets dangereux. Donc, quel que soit le résultat des élections, Veolia sera encore plus gros et fort aux États-Unis demain qu'on ne l'est déjà.
Et on va poursuivre justement sur cette question américaine, sur les enjeux de l'élection, puisque c'est le Super Tuesday. Dans un instant,